Et on rentre dans notre étude, mesdames et messieurs. Hop là, c'est parti. Et comme toutes les semaines, la caméra, parce qu'elle a envie, parce que c'est ça la technologie, j'ai dû bouger un sourcil de manière à ce qu'elle n'était pas contente. Ça va se remettre au point, vous inquiétez pas. En tout cas, on revient dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah. Et les amis, on a commencé à rentrer dans cette époque des Rishonim. On a parlé de Rashi et de Rabbeinu Tam chez les Ashkenazim. On a parlé la semaine dernière de Rabbi Yehuda Halevi et du Rambam avec toute la marloquette autour du Rambam. Et aujourd'hui, eh bien, comme on fait un ping-pong, eh bien, je reviens chez les Ashkenazes. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du 13e siècle. Le 13e siècle dans le monde Ashkenaz. Alors, j'essaye de me faire des trucs comme ça pour que la caméra se disent, tiens, j'aimerais bien refaire le point, ça va venir bientôt. En tout cas, nous sommes au 13e siècle. Et au 13e siècle, eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de quatre personnages qui sont évidemment mekoubalés Ashkenaz. Et donc, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec l'un d'entre eux qui s'appelle Rabbi Yehuda Hassid. Rabbi Yehuda Hassid. Alors, qui est Rabbi Yehuda Hassid? Vous savez quoi? Puisque celui-là fait des siennes pour l'instant, alors peut-être que ça, c'est la caméra pourrie de l'ordi. Hop là. Et voilà, tout va mieux. Donc, Rabbi Yehuda Hassid. Nous sommes dans ce qu'on appelle Hassidé Ashkenaz. Alors, quand on parle de Hassidé Ashkenaz, eh bien, rien à voir avec la Hassidoute du Baal Shem Tov, évidemment. On a appelé les Hassidé Ashkenaz après l'apparition de la Hassidoute du Baal Shem Tov, pour faire la différence entre les Hassidé Ashkenaz et les Hassidim du Baal Shem Tov. À l'époque du XIIIe siècle, on ne les appelait pas les Hassidé Ashkenaz, on les appelait tout simplement les Hassidim. Mais là encore, rien à voir avec la chassidoute du Baal Shem Tov. C'était chassid dans le sens en faire plus que ce que la halakha me demande. D'accord ? Et donc, parmi ces personnages extraordinaires, eh bien, nous avons un homme qui s'appelle Rabbi Shmuel Hassid, qui va lancer un mouvement, mais surtout repris par son fils, Rabbi Yehuda Hassid. Donc, Rabbi Yehuda Hassid, on est vraiment au début du XIIIe siècle, puisqu'il mourra en 1217, Rabbi Yehuda Hassid, donc c'est vraiment la fin du XIIe, début du XIIIe siècle, et c'est une autre façon de leitnaeg, c'est-à-dire que lui, il veut créer des communautés de Hassidim. Jusqu'à présent, on a vu qu'il y avait des rabbins. Et puis, il y avait la communauté. Alors, il y avait des rabbins qui avaient pour eux des minagim très particuliers, des mekoubalim, tout ça, mais les gens, ils n'étaient pas forcément là-bas. Rabbi Yehuda Hassid, lui, veut créer des communautés de Hassidim, et donc ces anagot et ces minagim qui sont très compliqués, puisque ce sont des minagim albi à Kabbalah, eh bien, il les étend à tout le monde. Parce qu'il veut que toute sa communauté, s'il n'est pas chassid, alors il ne va pas dans ma communauté, il va dans une autre communauté. Maintenant, c'est quoi l'idée? Il y a, au XIIe siècle et au XIIIe, un développement très grand de ce qu'on appelle l'influence chrétienne. En Espagne, il y a l'Inquisition, mais en Europe du Nord, la France, l'Allemagne, eh bien, il y a aussi cette volonté d'obliger les Juifs à se convertir au christianisme. Et il y a de plus en plus de Juifs qui vont se convertir au christianisme, ou du moins, qui vont être influencés dans leur minagim par le christianisme. Rabbi Yehuda Hassid, la première raison de vouloir créer une communauté fermée, c'est de préserver un espèce de d'îlot du judaïsme on ne pourra pas être tenté par quoi que ce soit. Pourquoi ? Bah parce que les gens qui sont dans ma communauté, c'est des mecs qui sont déjà extrêmement bien formés et donc ils ne vont pas se laisser influencer par quoi que ce soit. D'accord ? Donc ça, c'est l'idée. Et c'est pour ça qu'il va leur écrire un bouquin qui avait été commencé par son père, qui s'appelle Sefer Chassidim. Donc Sefer Chassidim, premier ou deuxième chapitre, on pense que ça a été écrit par le père de Rabbi Yehuda, à savoir Rabbi Shmuel Hassid, mais le reste, c'est les inscriptions de Rabbi Yehuda à Hassid. Ok ? Maintenant, qu'est-ce qui a marqué là-bas ? Eh bien, on va avoir beaucoup de anagot très particulières, et particulièrement dans le sujet de la tfila. Dans le sujet de la tfila, Rabbi Yehuda Hassid est un véritable chassid des mots, des lettres de la tfila. Car dans le Sefer Chassidim, on va nous expliquer qu'il y a une signification non seulement à chaque lettre, mais également au nombre de lettres qu'il y a dans chaque bracha et dans chaque tfila. Et que donc, si on enlève et qu'on change le noussar, ne serait-ce que par une lettre, eh bien, on a changé complètement l'attachement qu'on a avec les mondes supérieurs, puisqu'on aura complètement raté l'idée de cette bracha-là. C'est-à-dire, donc, pour Rabbi Yehuda Hassid, ça passe par là. Mais ça va passer également par beaucoup de anagot très particulières. Par exemple, eh bien, dans sa tzava'a, il y a un texte qui s'appelle Tzava'at Rabbi Yehuda Hassid, dans laquelle il parle de beaucoup de ses anagot qu'il veut transmettre à sa communauté. Et parmi ces anagot, eh bien, il y a, alors attention, là, vous allez chacun vérifier si vous le faites ou pas, on n'a pas le droit de se marier avec une femme qui porte le même nom que sa mère, que la mère du Khatan. Genre le Khatan, sa maman, elle s'appelle Myriam, il ne peut pas se marier avec une femme qui s'appelle Myriam. C'est pas la halakha, hein, évidemment. Mais pour Rabbi Yehuda Hassid, Al-Pi HaKabbalah, de la même façon, on ne peut pas se marier avec une femme dont le père porte le même nom que lui, que le Khatan. C'est problématique dans le milieu Chabad, puisqu'ils portent tous les mêmes noms. Donc, voilà, c'est un problème. Tu ne pourras jamais te marier. Mais enfin bon, parmi les Anagot, Rabbi Yehuda Hassid va donner énormément de place au Shedim. Eh oui. Ah oui. Pourquoi ? Parce que, nous dit Rabbi Yehuda Hassid, il faut, dans chaque maison, fermer une fenêtre. Alors, il y a des fenêtres, évidemment, mais l'une des fenêtres, il faut la condamner en mettant un tout petit trou pour laisser partir les Shedim. Parce que les Shedim, ils ne partent pas quand il y a une grosse fenêtre. Mais quand il y a un truc qui a l'air fermé, mais qu'on laisse une petite espace, alors c'est là qu'ils ont envie de s'engouffrer les Shedim. Et donc, comme ça, si tu veux les faire partir de ta maison, eh bien, tu fais ça. Tu vas te balader aujourd'hui à Sha'arei Chesed, à Jérusalem. Tu vas trouver plein de maisons avec une petite fenêtre condamnée, avec un petit trou dedans. C'est les anagot de Rabbi Yehuda Hassid. Alors, je ne rentre pas là-dedans, parce que nous, on n'y connaît pas grand-chose. Baal Anoda Biyehuda, lui, il était très, très contre. C'est un anagot de Rabbi Yehuda Hassid. Mais le fait est qu'il a construit une communauté qui va marcher, qui va résister à toutes les tempêtes, qui va continuer à produire des Talmidei Chachamim pendant 200 ans, où il y aura la communauté des Chassidei Ashkenaz, qui se réfèrent tous à Rabbi Yehuda Hassid. Alors ça, c'est le premier personnage que je voudrais évoquer avec vous. Le deuxième personnage que je veux évoquer avec vous, eh bien, c'est un personnage incroyable. Un personnage incroyable qui nous a laissé un petit bouquin, d'ailleurs je vous le montre. Hop là, il est là. Il est là. Voilà le livre. She'elot u'tshuvot min ha'shamayim. She'elot u'tshuvot min ha'shamayim de Rabbi Yaakov Mimarvish. Alors, qu'est-ce que c'est Marvish? Est-ce que quelqu'un connaît la localisation de Marvish? Non? Tu ne sais pas Marvish? Bon, je vous aide. Changez le même par un tête. Bon, vous n'avez pas vos micros, donc je ne peux pas entendre vos prononciations magnifiques, mais ça ressemblerait à Travish. Travish. Sauf que Travish, personne ne t'a dit qu'il fallait mettre un point en dessous du Vav pour faire I. Et donc, en fait, c'est Troish. Ou alors, 3. Et oui, Rabbi Yaakov est un des descendants de Rashi. Et il habite à 3. Rien de foufou. Rabbi Yaakov mi Marvish. Parce que Malahasot, dans la postérité, tout le monde va l'appeler Marvish. Peut-être que de là est venu le mot Marvin. Je ne sais pas. Faudra poser la question à des spécialistes des noms. En tout cas, Rabbi Yaakov, il va écrire un bouquin. Un bouquin qui est remis en cause de manière incessante, mais Malahasot, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est aujourd'hui reconnu par tout le monde pour une raison très simple, c'est que Rabbi David ben Shlomo ibn Zimra, à Radbaz, eh bien, va nous dire « Oh, Rabbi Yaakov, je vous cite, « Chacham gadol mekubal kadosh elion ve'afilu ulai navi. » Bon, ben, quand tu as une description comme ça, du Radbaz, eh ben, plus personne ne va remettre en cause Rabbi Yaakov. Donc, c'est quoi ce livre « She'elot utshuvot min hashamayim » Eh bien, c'est un bouquin très simple, très court d'ailleurs, dans lequel Rabbi Yaakov avait une chavruta qui était un malach. Et donc, à chaque fois qu'il avait une question, il posait la question au malach. Et le malach lui donnait des réponses. C'est tout. Bachalom. Le lendemain, enfin la nuit qui suivait la question, il faisait un rêve et le malach, il lui donnait la réponse. Pachout. Et donc, ça donne ce livre-là, She'elot utshuvot min hashamayim. Alors, plus mekoubal que ça, tu meurs. C'est-à-dire que on n'a pas... Voilà, on est en plein dedans. Alors, le livre est intéressant en soi, hein, bien sûr. Il y a plein de petits chidushim très sympathiques. Mais il y a une chose, il y a un endroit dans le livre qui est assez intéressant, plus que les autres peut-être même, puisque Rabbi Yaakov, en général, n'écrit pas les dates de ses dévoilements. Il dit, j'ai posé une question et j'ai reçu ça. Mais il y a un endroit où il dit, et j'ai posé cette question et la réponse m'est revenue en rêve à cette date-là. Et le malach m'a dit que c'est une date très importante. Et on parle du 19 du mois de Kislev. Yutet Kislev. Maintenant, vous avez bien compris qu'on parle du XIIIe siècle. Le Admour Hazaken n'est pas encore sorti de prison. Il n'y a pas encore eu les Chabad qui ont fait une OPA sur le 19 qui se lève. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des dates qui sont importantes, parce qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'elles soient importantes, et qui vont se dévoiler au fur et à mesure de l'histoire, d'une façon ou d'une autre. Et donc, lorsque Rabbi Yaakov Mimaverich nous dit que Marvish nous dit que le Malach lui a dit que c'est un Yom Gadol l'Eloi Israël tzach la'asot bo mishteh v'simcha, eh bien, pour l'instant, ce mishteh v'simcha, il a été repris par les Chabad. Bon, d'accord, pour l'instant, parce qu'il y a un événement qui a touché le Admor Hazaken. Mais rien ne nous empêche, et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer, qu'un jour, il y ait, pendant une année, peut-être cette année, je ne sais pas, il va se passer un truc, le 19 qui se lève, extraordinaire pour le peuple juif, si bien que le grand rabbinat d'Israël décidera que ça devient une fête pour toute l'humanité, pour toutes les générations. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va arriver. De la même façon que vous avez dans 2 semaines Toubichvat, c'est un jour important ou pas? C'est un jour important dans la halakha. C'est un jour comme les autres. Dans la halakha, il n'y a rien qui change entre le 14 Shvat et le 15 Shvat. Chez les communautés ashkénazes yéké, on fait tachanoun à Toubichvat. Il n'y a aucune différence entre Toubichvat et un autre moment. Mais les Mekoubalim, ils nous ont fait de Toubichvat un truc de fou. D'accord. Mais ce n'est pas encore obligatoire de faire Toubichvat. Celui qui ne mange pas de fruits à Toubichvat, il n'a rien transgressé. Mais un jour viendra où il y aura un événement qui va toucher le peuple juif et qui va faire que les Chachamim ils vont dire « Ah ben ça, c'est Toubichvat. » La vérité, c'est qu'il y a eu un événement qui a touché le peuple juif à Toubichvat, mais semble-t-il que les Chachamim ont oublié de le mettre en avant. C'est en 1949, à Toubichvat, c'est le jour où la Knesset est passée à Jérusalem. C'est un événement fondamental. Donc, voilà. Donc, Rabbi Yaakov, mi Marvish, ou mi Troish, en vrai. Nous sommes, vous l'aurez remarqué, en plein milieu de l'époque qu'on a... Oui, agricolement parlant, il y a aussi quelque chose. Oui, de Rosh Hashanah l'Ailanot, Beseder, c'est le moment où tu commences à compter la nouvelle année de l'arbre, l'Ignané Orlav, l'Ignané Netarevaï, et c'est aussi le moment où le Talmud Yerushalmi nous dit que la sève commence à remonter dans les arbres. Mais d'accord, mais concrètement, il ne se passe rien, quoi. Ah oui, toi, t'as compté une nouvelle année, mais ça n'est pas. Ah, c'est pas foufou. Ça n'est pas. Donc, vous avez remarqué qu'on est en plein milieu de la période, en fait, des Tosafot. Tous ces gens-là dont on est en train de parler sont parmi les fameux Tosafot. Alors, c'est pas les petits-enfants de Rashi, mais en fait, toute cette génération-là, jusqu'au XIVe siècle, on va les appeler les Tosafot. Même s'ils ne sont pas forcément les petits-enfants de Rashi ou même pas forcément de la famille du tout. Et donc après, c'est-à-dire après avoir parlé donc, tout d'abord de Rabbi Yehuda Hassid, de Rabbi Yaakov Mimavitch, et bien maintenant, je vais parler d'un masterpiece. Oui, la masterpiece en question. Vous la connaissez. Enfin, je ne sais pas si vous la connaissez, mais une grande partie d'entre nous la connaissent. Il a été, au niveau de la halakha, un apport énorme du judaïsme. Et il a une histoire incroyable et une fin tragique. Et il s'appelle, allez, je vous le donne en mille, Rabbi Meir Berabbi Baruch. Tout le monde connaît Rabbi Meir Ben Baruch. Faites de la tête. Non? Moyen? Quoi, moyen? Rabbi Meir, tu t'es dit, c'est Rabbi Meir Balanes. C'est qui Rabbi Meir Ben Baruch? Ah là là. Ah là là. Bon, alors, je vais l'appeler par son surnom. Parce que semble-t-il qu'avec son surnom, vous le connaissez. Meiri, non, Rabbi le Meiri, c'est Rabbi Yaakov à Meiri, donc c'est pas Rabbi Meir Ben Baruch, et le Meiri c'est plus tard, donc on n'y est pas encore, et puis le Meiri, la vérité, c'est que je pourrais vraiment pas en parler dans ce cours-là, parce que c'est pas du tout un Mekoubal, donc, non mais c'est pas lui en tout cas. Attention, le surnom c'est Maharam Mirotenburg. Non, toujours pas? David, comment? Qu'est-ce que j'apprends? Maharam Mirotenburg. Les amis, Maharam, c'est Meir Ben Baruch, hein, c'est Baruch. Le Rav du Roche, Nachon, C'est pour ça que le Roche, ça sera plus tard. Et à mon avis, pas dans ce cours-là. En tout cas, Amaharam mi Rothenburg. Alors, de quoi on est en train de parler? Bon, d'abord, Rothenburg, vous avez compris que ce n'était pas au Maroc. On parle des rabbanim de la vallée du Rhin. On parle des rabbanim de toute cette région-là. Vers Amaharam mi Rothenburg. Eh bien, bon, alors, je vais vous dire très simplement, il est Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Rothenburg, il est le décisionnaire principal de toute cette région-là pendant la deuxième moitié du XIIIe siècle. Donc là, il n'y a pas de problème. Ses élèves sont très connus à Rosh, à Mordechai. Mais tout ceci, eh bien, vont malheureusement le mettre en première ligne de ces lois antisémites qu'il y avait en Allemagne à ce moment-là. Puisque la loi disait que les Juifs en Allemagne étaient des sujets de l'Empire prusse, de l'Empire prussien, de l'Allemagne de l'époque, mais surtout qu'ils n'avaient pas le droit de quitter le territoire de l'Allemagne de l'époque. Parce que s'ils quittent le territoire, c'est une révolte contre l'Empire, c'est une révolte contre le royaume, et que donc ils sont arrêtés. Amaharam mi Rothenburg, comme tous les Mekoubalim, est attiré par quoi? Ben, par Israël, évidemment. Et donc le Maharam de Rothenburg va vouloir partir en Israël. Et il est dénoncé. Il est dénoncé par un juif qui s'est converti au christianisme. Il est dénoncé par un juif alors qu'il est presque sur la frontière et il arrive pratiquement en Italie. Et il est attrapé et sous l'ordre de César, de l'empereur Rodolphe Harishon, Rodolphe Ier, eh bien il va être emprisonné. Il est emprisonné, alors où est-ce qu'il est emprisonné? Il est emprisonné dans la grande forteresse et dans la grande tour, comment ça s'appelle, Idelheim. Et là-bas, eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'empereur, Rudolf, il dit, moi, j'ai pas de problème qu'on le libère. 20 000 marques. 20 000 marques pour la libération du Maharam de Rothenburg. Et là, le Maharam va sortir une lettre très importante. Alors, au début, il faut savoir que quand il est emprisonné, au début, on lui interdit d'étudier la Torah. Et donc, on met un gardien dans sa cellule pour qu'il n'ait pas le droit d'étudier la Torah. Il va y avoir, et de sa part, et de la part des Juifs de la ville, machin, de lui permettre quand même de la Sokba Torah. Et finalement, on va lui laisser étudier la Torah, on va le laisser même rencontrer une fois par semaine un représentant de la communauté. Et donc, en fait, le Maharam de Rothenburg, il continue à être le rabbin de toute la région. Et toutes ses réponses continuent à affluer, mais depuis la prison. En tout cas, on fixe sa libération à 20 000 marks. Et le Maharam va donner une lettre dans laquelle il interdit qu'on le libère. Interdiction formelle de me libérer. Lama, ben parce que si on commence à payer ce genre de somme pour moi, qu'est-ce qui empêchera les goyim de prendre un autre rabbin la semaine prochaine et de demander encore une somme comme ça? Donc non. Bon, très bien. Mais finalement, il va mourir en prison. Et même pour libérer son corps et pouvoir l'enterrer, ils vont demander la moitié de la somme, 10 000 marks. Vebenigoud leorat rabo, en contradiction avec ce qu'elle a dit son maître, eh bien Rabbeinu Arosh va quand même réunir l'argent et va faire libérer son corps pour qu'on puisse l'enterrer. Est-ce qu'il lui en veut, Bachamaim, ou il lui en veut pas, Bachamaim, Loyodea? Dans les faits, ils n'ont pas repris deux gens après. Ce n'est pas devenu un sport de capturer un grand rabbin et de demander une grande rançon. Donc au final, Amaharam Nerotenburg, il a pu quand même être enterré Kadat Vekadin. Maintenant, c'est qui ce Maharam de Rotenburg? En quoi il va avoir une influence énorme dans toute la Torah? Eh bien, on a dit, il est dans la prison, et donc il étudie et il essaie de transmettre son enseignement. Mais il écrit dans la prison, je n'ai pas la possibilité de voir ce qu'ont écrit les Tosafot. Donc les Tosafot d'avant lui. Il dit, j'ai pas. Donc, je commente le Talmud comme ce que je pense. Et si jamais vous voyez une contradiction entre ce que moi j'ai écrit et ce que les Tosafot ils ont écrit, ne prêtez pas attention à ce que moi j'ai écrit. Bitoul, itbatlout pour les Tosafot. Seulement, il y a une question que vous n'avez pas posée. Pourquoi il ne peut pas savoir ce qu'il y a dans les Tosafot? Parce qu'il n'a pas le bouquin. Ok. Et comment il sait ce qu'il y a marqué dans le Talmud? Eh oui. C'est-à-dire que le Talmud, il connaît par cœur, ça ne dérange personne, tout va bien. Mais les Tosafot, c'est récent, il ne les a pas encore, ils ne sont pas tous accessibles. Bon, rien que ça, déjà, c'est fou. Quelqu'un qui t'écrit tout un commentaire du Talmud alors qu'il n'a pas vu une page du Talmud, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. C'est comme par exemple, ce livre-là. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là. Où est-ce qu'il est, mon bouquin? Bravo. Où est-ce qu'il est? Quelqu'un m'a volé mon livre. C'est un scandale. C'est bon, non, j'ai le lame. Quelqu'un vient me voler mes livres. C'est un scandale. Bon. Bon, tant pis. Pardon? En cela, il est mekoubal? C'est ça que tu demandes? Non, pas en cela, il est mekoubal. Il y a plein de gens qui sont des balais à nigler et qui connaissent aussi le Talmud par cœur. C'est pas ça qui le rend mekoubal, pas du tout. Non, va d'aller chez l'eau. Maintenant, pourquoi le Maharam de Rotenburg, il fait partie des Mekoubalim? Tout simplement parce que il est Talmid Talmidehem Shel Chassidé Ashkenaz. C'est-à-dire que lui aussi, il reprend l'enseignement de ses Chassidé Ashkenaz, cet enseignement qui est basé pas seulement sur la Halakha, mais également sur les enseignements de la Tfila, les enseignements ésotériques. On va retrouver ça dans ses Ktavim à lui. Donc, c'est quelqu'un qui va suivre la Naga de Rabbi Yehuda Hassid, par exemple. Le Maharam de Rotenburg, il suivait les Anagot de Rabbi Yehuda Hassid. Donc, il se trouve qu'en plus de ça, hein, donc en plus du fait d'être Mikdola Mekoubalim, il est aussi Mikdola Poskim. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois, hein, qu'à l'époque, les Mekoubalim sont également Gdola Poskim. Il n'y a pas encore cette différence entre eux, il y a des rabbins de Kabbalah, il y a des rabbins de Halakha. C'est-à-dire, Agave, c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui. Mais il y a une différence. C'est que par opposition à Rabbi Yehuda Hassid, comme on a dit, il veut que sa communauté fasse ses anagot, lui, il donne la Halakha en mode Halakha, et ce que lui, il fait, c'est ce que lui, il fait. Et là, c'est effectivement, on va avoir deux écoles. Par exemple, le Ben Ishraï, bon, on n'y est pas encore, hein, mais dans longtemps, on parlera du Ben Ishraï, mais le Ben Ishraï, lui, comme Rabbi Yehuda Hassid, il est possèque pour sa communauté Alpi HaKabbalah, ve Alpi HaNagot Shelo, parce qu'il pense que sa communauté, ils sont au niveau. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas le cas de la majorité des Mekoubalim qui sont d'Afka très Mekelim pour les autres, très permissif pour les autres, tout en prenant sur eux-mêmes plein de choses. Donc le Maharam de Rotenburg, à ce niveau-là, il est différent de ses maîtres, parce que lui, dans la halakha, il est me'od ilkhati. Il se retranche de sa communauté. De qui tu parles? Du Mekoubal? Non, il ne se retranche pas de sa communauté. il y a ce qu'il fait à la maison, quand personne ne le voit, et il y a les directives qu'il donne à la communauté. Par exemple, tu ne sauras jamais, normalement, si ton rabbin, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, tu ne sauras jamais si je mets uniquement cette filine-là, ou alors si je mets aussi des autres filines. Parce qu'il y a Rashi et il y a Rabbeinu Tam. Mais est-ce que tu as le droit de savoir si ton rabbin il fait Alpia Kabbalah? Tu ne peux pas savoir. D'accord? Parce qu'on n'a pas le droit de le dire. Donc, si tu veux, il n'est pas retranché. Il a une vie intime où il a un contact avec Akadosh Baruch Hu qui est dans l'intimité et il a ce qu'il dit aux gens qu'il faut faire au niveau de la halakha. Moi, je trouve que c'est au contraire. C'est extraordinaire. Il est complètement dans sa communauté, mais quand il est seul avec lui-même, il peut s'élever. C'est beau. Au contraire. C'est ça ? Et donc, bah on a vu le Maharam qui n'a pas réussi à réaliser son rêve d'Eretz Israël. Mais il y en a un qui, d'ailleurs, est un de ses maîtres. J'aurais dû commencer par lui, mais je voulais terminer sur un personnage haut en couleur. Il y en a un qui est un de ses maîtres qui, lui, va réussir le pari d'Eretz Israël. Il s'appelle Rabbi Yechiel. De où ? D'où il vient ? D'où il vient, Rabbi Yechiel ? De Paris, évidemment ! Ici, c'est Paris ! Voilà, Rabbi Yechiel de Paris, bien sûr. Attends, Rabbi Yechiel mi Paris, par où commencer ? C'est un personnage incroyable. Incroyable, on l'appelle déjà à son époque Rabbi Yechiel Hassid. Parce qu'il est celui qui réunit en lui l'enseignement de Rabbi Yehuda Hassid. Rabbi Yehuda Hassid est en Allemagne, Rabbi Yechiel mi Paris en France. Mais ils sont plus ou moins contemporains, ils ont 30 ans d'écart. Et donc Rabbi Yechiel est déjà connu comme étant Rabbi Yechiel Hassid, mais Rabbi Yechiel va avoir une connexion très particulière avec un Racha Gadol, Meod Meod, mais comme il a un profond respect pour Rabbi Yechiel en tant que personne, il va permettre à ce dernier d'essayer de préserver sa communauté. Alors, de quoi je parle ? Rabbi Yechiel mi Paris, c'est donc le rabbin le plus connu à Paris à ce moment-là. On est à la fin du XIIIe siècle. Et à ce moment-là, il va y avoir, comme d'habitude, eh bien, des gens pas très, très bien intentionnés qui vont venir voir le pape disant que dans le Talmud, il y a énormément de textes de personnification du Créateur et que de toute façon, il y a énormément de citations dans le Talmud contre les chrétiens et que donc, il faut détruire le Talmud. Et donc, le pape Grégoire IX, eh bien, décide qu'il faut détruire le Talmud. Ok. Il envoie donc un message au roi de France pour que ce dernier s'occupe de détruire le Talmud. Le roi de France s'appelle Louis IX, celui qu'on appelle Saint Louis, ce bon Saint Louis. Il s'appelle Saint-Louis parce qu'il a fait beaucoup de mal aux Juifs. Pachout. Il y en a qui disent qu'il est mort de la peste en Tunisie. Et je pense qu'il a été invité chez une famille juive tunisienne qui lui ont fait une keila et il n'a pas supporté. Je pense que c'est ça la vérité historique, mais on nous la cache. Quoi qu'il en soit, Louis IX va dire au pape, ok, mais je pense qu'il faut d'abord donner aux Juifs la possibilité de s'expliquer. Et donc, il va faire un vicuar pumbi, une grande dispute comme il y avait à Barcelone, entre des chrétiens qui sont des juifs convertis et Rabbi Yechiel de Paris. Et Rabbi Yechiel va leur expliquer que d'abord, toutes les terminologies d'anthropomorphisme ne sont absolument pas pour personnifier le divin. Et il va leur expliquer que tout ce qui a marqué contre les Ovdei Avodah Zarah, c'est contre les Ovdei Avodah Zarah de l'époque de l'écriture du Talmud. Certainement pas contre les chrétiens aujourd'hui. C'était qui les Ovdei Avodah Zarah de l'époque du Talmud ? Les Romains et les chrétiens. Mais ça, on ne le dit pas. Et finalement, est-ce que ça marche ou pas ? Ben non, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, c'était une belle pommade que nous a passée Louis IX, mais finalement, ces 40 charrettes avec la prière d'Abdinaï, il ne serait pas mort. Il aurait fait tchouva, Louis IX. Écoute, le problème, c'est que Louis IX, il était ashkénaze. Et que c'est compliqué pour un ashkénaze de supporter l'Abkeïla. C'est dur. De la même façon qu'un bon Marocain ne peut pas survivre à un tchoulent bien placé, peut-être que la Géoula serait de faire un blind test. Tu prends un ashkénaze et un tunisien, tu leur bandes les yeux et tu leur fais manger des plats, comme dans l'aile ou la cuisse. Et on voit s'ils s'évanouissent ou pas. Et peut-être que ça amènera la Géoula entre les communautés. Mais bon, on en reparlera, peut-être qu'on fera ça un jour avec la Yeshiva Online. C'est un projet. Quoi qu'il en soit, finalement, ces 40 charrettes avec des écrits du Talmud, des Kitvei Yad, qui sont brûlés devant Notre-Dame à Paris. Et Yesh Safek, quand on va à Notre-Dame, pas dans la cathédrale, mais quand on arrive sur la place de Notre-Dame, est-ce qu'il ne faudrait pas faire Kriya ? Parce que c'est un endroit où a été brûlée la Torah, tout simplement. Donc les amis, finalement, ça ne marchera pas. Alors comment ça se fait que Rabbi Yechiel avait, que le roi Louis IX avait du respect pour Rabbi Yechiel ? Bien simplement parce que beaucoup plus tôt dans l'histoire, on avait dit au roi que Rabbi Yechiel, que le rabbin des Juifs, pratiquait la sorcellerie. Tiens donc, pourquoi ? D'où, qui que quoi qu'est-ce ? Alors c'est un épisode qui est rapporté dans le Sefer Kaftor Vaperach. Et dans le Sefer Kaftor Vaperach, il nous ramène une histoire assez intéressante. Franchement, je ne sais pas d'où il la tient, d'où lui vient la massorette de ça, mais bon, pourquoi pas. Et il écrit qu'on a dit sur Rabbi Yechiel qu'il faisait de la sorcellerie parce qu'il avait chez lui ou dans sa maison, il avait une boule magique qui s'allumait, faisait de la lumière sans matière incandescente. Et donc le roi est venu rendre visite à Rabbi Yechiel. Il a dit, il paraît que tu fais de la sorcellerie. Il a dit, pas du tout. Je ne fais pas du tout de sorcellerie. Ani chacham mi chachmei ateva. Je suis un sage de la nature. Et c'est en réunissant deux morceaux de métaux que sa boule s'illuminait. Les amis, Baal HaKaftor Vaperach est en train de nous expliquer qu'au XIIIe siècle, Rabbi Yechiel Miparis avait découvert l'ampoule avant Thomas Edison, quelques 400 ans avant lui. Et quand le roi lui a demandé de lui apprendre ses secrets, il a dit non, parce que vous n'êtes pas encore moralement prêt à utiliser ça. mais il a été très impressionné par Rabbi Yechiel. Donc c'est de là qu'est venu le kavod qu'il lui donnait. Et donc, après l'échec de Rabbi Yechiel, eh bien, à sauver le peuple juif, mais en fait, ce n'était pas vraiment un échec, puisque c'était pipé dès le départ, Rabbi Yechiel comprend qu'il ne peut plus rien pour la communauté à Paris, et donc il décide de réaliser, comme tous les chassidés ashkénazes, le rêve, et il part en Israël. Et il part en Israël, et où est-ce qu'il arrive en Israël, Rabotai? Nous? Où? Jérusalem? Non! Qu'est-ce que tu dis, Anita? Eh oui! Il arrive à Akko, les amis! Akko! Et là-bas, il va créer une yeshiva qui s'appelle Bet Midrash Rabba de Paris. Le Bet Midrash Agadol chez le Paris. À Akko. Pas mal! Et Rabbi Yechiel Miparis, finalement, arrive à Akko en Eretz Israël. Il terminera sa vie là-bas. Et c'est de là-bas qu'il va donner la grande majorité de ses psakim. De ses psakim, c'est depuis la yeshiva de Akko qu'elles vont sortir. C'est-à-dire qu'il écrit beaucoup moins quand il est à Paris que quand il est à Akko. Et le grand chidouche, qui est donc ramené par le Sefer Kaftor Vaperach de Rabbi Yeshtori Agparchi, eh bien, le grand chidouche de Rabbi Yechiel Miparis, c'est de dire qu'il faut faire des sacrifices Bazman Hazé. Quand il arrive en Israël, Omer Vekotev, Shetzarich Lakriv Korbanot Bazman Hazé. Mais c'est comment ça? Il dit parce que Touma Outra Betzibur, que vu qu'on est tous Tmeim, alors c'est comme si on était tous Théorim. Et donc, une fois qu'on est en Israël, il faut recommencer les korbanot, même s'il n'y a pas de Bet Mikdash. On ne sait pas si finalement il a fait ou pas des korbanot à Jérusalem, mais en tout cas, il le dit clairement. Il faut le faire. Voilà un rabbin qui est porté sur l'avenir, qui est porté sur le rêve, et qui marque également la fin d'une époque. La fin des chassidés Ashkenaz, puisque l'élève du Maharam de Rothenburg, on a dit, c'est tous les mêmes contemporains, Rabbeinu Arosh va marquer une véritable coupure, mais ça, on n'en parlera pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on parlera des Sfaradim, mais la semaine d'après, pour voir ce qui va se passer au XIVe siècle, où il y a un véritable changement dans l'enseignement de la Kabbalah, où on ne se concentrera plus seulement sur des choses spécifiques, mais on en fera une vraie théorie différente à chaque époque. Et ça, on verra quand on y sera. Et en attendant, c'est l'heure d'ouvrir vos micros.
Qu'est-ce que veut dire anagot?
Des minagim, des coutumes... Des agissements particuliers.
C'est une chova à partir du moment que, comme dans les mitzvot qu'on prend sur soi.
Exactement. À partir du moment où on le prend sur soi, ça devient une obligation.
Des comportements. Le Talmud n'a pas été brûlé en place de grève.
Ah ben là, vous me mettez un doute.
Près de l'hôtel de ville.
Oui.
C'était un doute. Pas devant Notre-Dame?
Non, c'est la place des grèves.
Eh bien,
Je crois.
Très bien. Je vais vérifier, mais vous mettez le doute quand vous le dites. Donc, ça me dit quelque chose aussi, ce que vous dites. Eh bien, je prends. On va demander au Rav Google. Lui, c'est. Oui, Félicia.
Et ma question, en quoi il différenciait ses comportements et qui savait qu'il se comportait différemment pour dire qu'il était mekoubel. C'est ça que je ne comprends pas. Parce que vous dites qu'il donne des psakim et il dit à la communauté de se conduire d'une manière et lui il fait autre chose. Et comment
donc, comment on sait, c'est très simple. Ses élèves, les élèves choisis qui vont continuer son chemin, eux, il leur dit de faire comme lui. Et c'est eux qui nous racontent, c'est jamais au même moment. C'est toujours une génération ou deux générations plus tard qu'on nous dit, mais en fait, sachez que lui, il était comme ci, comme ci, comme ça. Donc, on sait toujours après.
En quoi d'autre, Rabbi Yehiel, qu'est-ce qu'il y avait de particulier quand on a fait un mekoubal?
Chouv, Rabbi Yehiel de Paris, il reprend les mêmes anagotes, comme on a dit, que Rabbi Yehuda Hassid. C'est place de... Ah, attention, nous avons ici une information de Wikipédia qui nous dit c'est place de grève, effectivement. Le tribunal quoi ? Qui a dit le tribunal. Voilà, on a dit. OK, place de grève. Eh bien, très bien. Alors, place de grève. Eh bien, les amis, nous avons ici une belle correction. C'est pas devant Notre-Dame, c'est place de grève. J'imagine qu'il y a dû avoir d'autres trucs antisémites devant Notre-Dame. On verra.
Mais c'est là-bas qu'on a mis la guillotine aussi.
Où ?
À la place des grèves.
Oui, si c'est là-bas, alors c'est là-bas. OK, alors très bien. Autant pour moi, Nimé Kabel et Tatikoun.
Le Rav Aviner, il a listé tout ce qui s'est passé devant Notre-Dame de Paris.
Ah ouais ?
En bac antisémite. Bon,
vous l'enverrez. Il a dû en avoir deux, trois.
Bonne cinquantaine.
Voilà. Top. Alors, ça va. Alors, pour le Talmud, OK, on est bon. Donc, voilà. Donc, Rabbi Yehiel, il a les mêmes anagogues que Rabbi Yehuda Hassid. Et il y a aussi cette dimension constante de se tourner vers Eretz Israël et la volonté de recommencer les korbanot. Ça, c'est quelque chose qui est purement du domaine de la Kabbalah. Pourquoi ? Parce que le korbanot, c'est le Beth Amikdash, c'est la relation avec le divin. C'est ça.
Mm-hmm. OK. Toda.
Bakasha. Pas d'autres questions ?
Non.
Merci beaucoup.
Alors, la prochaine fois, on continuera jusqu'au bout. Hein.
Ah bah ouais, hein, s'il n'y a pas de questions, pas de questions. Hein. Très bien. Attends, je ne sais pas si vous avez dû à comprendre qu'à travers les époques, il va y avoir d'autres manières de comprendre la carte. Attends. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas compris la question. C'est pas suffisamment dur à comprendre qu'à travers les époques, il va y avoir d'autres manières de comprendre la Kabbalah ?
Non. Ah.
C'est pas une question ?
Une observation.
Il y a deux points d'interrogation après.
C'est une observation.
C'est une observation. Tom, nous ?
C'est bien assez dur déjà.
Le thème des films courts.
C'est bien assez dur comme ça. Nous, ça adhère. C'est pour ça qu'on est là, qu'on étudie. Qu'est-ce qu'il y a ? On n'a pas peur de quelque chose qui est un petit peu difficile. Mais encore une fois, la Kabbalah, elle se transmet aux époques différentes, avec un langage différent, pour mettre en avant ce qui est nécessaire à ce moment-là. Donc c'est normal que, là maintenant, on va avoir la renaissance de la pensée humaine, parce que ça va être la période de la renaissance qui va commencer. Donc c'est normal que la Kabbalah aussi, elle a une nouvelle façon de s'exprimer. Oui, Rabbi Yaakov.
Alors, moi, c'est lié à ce qu'il y a eu la semaine dernière par rapport au Rambam, justement, par rapport à maintenant. Ouais. On vient de dire, justement, que la Kabbalah, elle passe à travers les générations, elle change de langage, mais c'est un autre langage. Et pour revenir au Rambam, j'ai eu l'impression que, d'études que j'ai eues dans le Rambam, que ce soit dans le Moré Nebuchim, dans les Égarés et autres, que c'est aussi lui ce qu'il fait. Il traduit d'un autre langage des termes de Kabbalah, mais de manière, comment dire, aristotélicienne et compagnie.
C'est pour ça qu'on a dit la semaine dernière que pour certains, le Rambam, il était aussi. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont dit non, mais à la fin de sa vie, il est devenu Mekoubal. Parce qu'ils voient bien qu'il y a un enseignement qui est complètement ésotérique et qui passe à un niveau différent. Mais d'un autre côté, tu vois qu'il n'utilise pas du tout le même langage que les Mekoubalim de son époque. Tu vois qu'il est beaucoup plus placé sur le Sechel. Donc, il y a des gens qui ont eu du mal à dire « Non, c'est un Mekoubal. Non, c'est pas un Mekoubal. » Sauf qu'au final, il y a quand même tout un enseignement qui est, oui, basé sur une réflexion intérieure. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, on a dit la semaine dernière, il y a des rabbins qui ont dit non, sauf Kenaya. Ou alors, on a dit sa Kabbalah à lui. C'est-à-dire quoi, sa Kabbalah à lui? Ben, comme tu dis, c'est une autre façon de dire les choses. Et de dire que le Rambam, Loïkir et Torah ta Kabbalah, Zenirali.
Dans les Hot Yesoda Torah, il écrit Maase Merkava, Maase Bereshit.
Ouais, mais ça, ça suffit pas, parce que Maase Merkava, Maase Bereshit, de ce que le Rambam, il te dit, c'est Loa Kabbalah, c'est Aïstaklut Ba Galgalim.
Ouais, mais justement, moi j'ai compris dans le Morin Vrim que non, qu'il dit très bien qu'il parle d'Aristo, qu'il parle Mitarata Galgalim.
Tu parles des Hot Yesoda Torah ou tu parles de
Morin Vrim? Que dans le Morin Vrim, il explique plus en profondeur qu'est-ce que.
Oui, mais rappelle-toi que le Hot Yesoda Torah, c'est pour toi et moi, et le Morin Vrim, c'est pour Rabbi Yehuda et Ben Aknin. Rabbi Yoseb et Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que c'est très possible que. Non, il continue sur la Torah, il a donné tout simplement une halakha que tout le monde peut comprendre qui n'est pas kabbalistique. C'est comme ça qu'ils font les mekoubalim. Il te donne un truc pour le Hamon et il donne un truc pour celui qui pense être capable de comprendre. Donc c'est pour ça que je reviens et je te dis, moi je pense effectivement que le Rambam, il avait sa Kabbalah à lui. Il n'a pas voulu aller dans le même sens que les Chachamim avant lui, comme par exemple comme Rabbi Yehuda Halevi, mais il avait quand même quelque chose. De très kabbalistique, quoi.
Dans Agdama les Perek Chelek, il le dit presque objectivement sur blanc. Il parle du Niglé Venistar et de la profondeur des enseignements des Chachamim, que c'est beaucoup allégorique, etc. etc. Enfin, c'est...
Mais il n'y va pas.
Oui.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il sait que ça existe. Là, tu vois que c'est sûr qu'il connaissait, mais après, il n'y va pas. Donc, tu te dis, alors quoi, il n'y va pas. Donc, ça veut dire qu'il ne veut pas, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas, ou alors ça veut dire qu'il a décidé d'y aller autrement. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il fait partie de ceux qui ont décidé d'y aller autrement. D'accord. Et à dire vrai, je pense que notre débat autour du Rambam, il est dû à la réussite du Harizal. C'est-à-dire, puisque le Hari, il a été tellement fort, et il a tellement réussi à faire en sorte que la Kabbalah, c'est la version du Hari, point, que toute autre forme de réflexion ésotérique, on se dit que ce n'est pas de la Kabbalah. Alors que l'Av Dovka.
Alors justement, par rapport à ça,
pardon
Matouche, il accentait toujours qu'il enseignait la Kabbalah à partir de Shaare Ora, et de l'Av Dovka, il commençait du Hari, non?
Bon, mais de ce que moi j'ai entendu du Rav Cherki, c'est qu'il disait qu'il faut commencer par Shaare Ora parce que c'est à 70% du Tanakh. Et que donc, en fait, c'est le meilleur rattachement à la Névoie. Parce que c'est pratiquement que des psukim, des psukim, des psukim. Tov, et ben finalement, il y a eu des questions.
Rav, toda rabah, shavua tov.
Shavua tov.
Toda rabah.